Emmanuel Kant, prolégomène à toute métaphysique future, suite et fin de la deuxième partie. Deuxième partie, comment la physique pure est-elle possible? Chapitre 35. C'était donc deux recherches importantes et tout à fait indispensables, quoique extrêmement arides, que celles qui ont été faites dans la critique, page 180 et 283. Par la première desquelles, on a fait voir que les sens ne donnent pas les notions intellectuelles pures, concrètement, mais seulement le schème à leur usage, et que l'objet qui lui est conforme n'est trouvé que dans l'expérience, comme produit de l'entendement tiré des matériaux de la sensibilité. Dans la seconde recherche de la critique, page 283, on fait voir que, malgré l'indépendance de nos notions intellectuelles pures et de nos principes à l'égard de l'expérience et même de la plus grande circonscription apparente de leur usage, rien, cependant, ne peut être conçu par elles en dehors du champ de l'expérience parce qu'elles ne peuvent que déterminer simplement la forme logique du jugement par rapport aux intuitions données. Et comme aucune intuition absolument ne dépasse le champ de la sensibilité, ces notions pures sont absolument sans signification puisqu'elles ne peuvent être exposées in concreto d'aucune manière. Tous ces noumènes, avec leur ensemble, le monde intelligible, note, monde intelligible, et non, comme on s'exprime ordinairement, monde intellectuel. Car sont intellectuelles les connaissances fournies par l'entendement, et qui se rapportent aussi à notre monde sensible, tandis que sont intelligibles des objets qui ne peuvent être représentés que par l'entendement, et qui ne sont l'objet d'aucune de nos intuitions sensibles. Mais cependant, comme à tout objet quelconque doit correspondre une intuition possible, il faudrait alors imaginer un entendement qui perçût immédiatement des choses, espèce d'entendement dont nous n'avons pas la moindre notion. Nous n'en avons pas davantage, des êtres intelligibles qui en seraient l'objet. Fin de la note, reprise du texte. Tous ces noumènes, avec leur ensemble, le monde intelligible, ne sont donc que des expressions d'un problème dont l'objet est bien possible en soi, mais dont la solution est entièrement impossible, d'après la nature de notre entendement, puisque cette faculté n'est pas celle de l'intuition, mais simplement celle de la liaison en une expérience des intuitions données, et que cette expérience doit par conséquent renfermer tous les objets de nos notions et qu'en dehors d'elles, toutes les notions, par le fait qu'aucune intuition ne leur est soumise, seront sans signification. Chapitre 36. L'imagination est peut-être excusable s'il lui arrive parfois de délirer, c'est-à-dire de ne pas se renfermer prudemment dans les limites de l'expérience, car au moins, elle est animée et fortifiée par un libre sceau, et il lui sera toujours plus facile de modérer son audace que d'exciter sa langueur. Mais que l'entendement, qui doit penser, délire, au contraire, c'est ce qu'on ne peut jamais lui passer, car sur lui seul se fonde tout l'espoir de mettre autant que possible des bornes au délire de l'imagination. C'est ce qu'il entreprend avec beaucoup de retenue et de modestie. Il commence par tirer au clair les connaissances élémentaires qui peuvent résider en lui avant toute expérience, mais qui doivent néanmoins avoir toujours leur application dans l'expérience. Il oublie peu à peu ses limites. Qu'est-ce qui pourrait l'en empêcher, puisqu'entièrement libre, il a tiré ses principes de lui-même. Il va donc, pour commencer, à des forces nouvellement imaginées dans la nature, bientôt après, à des êtres en dehors de la nature, en un mot, à un monde pour l'édification duquel nous ne pouvons manquer de matériaux, puisqu'une féconde imagination en fournit abondamment, et que si l'expérience ne confirme pas l'œuvre, elle ne la contredit jamais. Telle est aussi la raison pour laquelle de jeunes penseurs se passionnent pour la métaphysique d'une manière toute dogmatique, et lui consacrent souvent leur temps et des talents d'ailleurs précieux. Mais il ne peut servir à rien de vouloir modérer ces tentatives infructueuses de la raison pure en rappelant sur tous les tons la difficulté de la solution de questions si profondément obscures sur les limites de notre raison et de nous ramener des assertions à de simples présomptions. En effet, si l'impossibilité n'en est pas clairement établie et si la connaissance de la raison par la raison ne devient pas une vraie science où le champ de son usage légitime soit distingué avec une certitude, pour ainsi dire géométrique, du champ de son usage vain et stérile, ses efforts impuissants ne seront jamais abandonnés. Chapitre 37. Comment une nature même est-elle possible? Cette question, qui est le point le plus élevé que la philosophie transcendantale puisse jamais atteindre, et auquel elle doit aussi être conduite comme à ses limites et à son achèvement, en contient proprement deux. Premièrement, comment une nature dans le sens matériel, c'est-à-dire quant à l'intuition, comme ensemble des phénomènes, comment l'espace, le temps et ce qui les remplit, l'objet de la sensation, comment tout cela en général est-il possible? Réponse: par le moyen de la propriété de notre sensibilité, qui fait qu'elle est impressionnée d'une manière à elle propre par des objets qui lui sont inconnus en eux-mêmes et qui sont tout différents de ces phénomènes. Cette réponse a été donnée dans le livre même, dans l'esthétique transcendantale, et ici, dans les prolégomènes, par la solution de la première question. Deuxièmement, comment une nature dans le sens formel du mot, comme ensemble des règles auxquelles tous les phénomènes doivent être subordonnés, quand ils doivent être conçus comme liés en une expérience, est-elle possible? Il n'y a pas d'autre réponse que celle-ci. Elle n'est possible qu'au moyen de la propriété de notre entendement, suivant laquelle toutes ces représentations de la sensibilité sont nécessairement rapportées à une conscience et qui rend enfin possible la manière propre de notre pensée, c'est-à-dire la pensée par des règles et par tout cela l'expérience, qui se distingue absolument de la connaissance des objets en soi. Cette réponse est dans le livre, dans la logique transcendantale, mais ici, dans les prolégomènes, elle est l'objet de la solution de la deuxième question principale. Quant à la question de savoir comment est possible cette propriété particulière de notre sensibilité même, ou celle de la perception nécessaire de notre entendement, à perception qui lui sert de base, ainsi qu'à toute pensée, c'est ce qu'il ne peut se dire, parce que nous avons toujours besoin d'elle pour toute réponse et pour penser les objets. Beaucoup de lois de la nature ne peuvent nous être connues que par le moyen de l'expérience, mais nous ne pouvons apprendre à connaître la légitimité dans la liaison des phénomènes, c'est-à-dire la nature en général, par aucune expérience. Attendu que l'expérience même a besoin de ces lois comme fondement de sa possibilité a priori. La possibilité de l'expérience en général est donc aussi la loi universelle de la nature. Et les principes de la première sont même les lois de la seconde. Car nous ne connaissons la nature que comme ensemble des phénomènes, c'est-à-dire comme ensemble des représentations en nous. Et nous ne pouvons, par conséquent, tirer la loi de leur liaison que des principes de leur liaison en nous, c'est-à-dire des conditions de l'union nécessaires en une seule conscience, union qui constitue la possibilité de l'expérience. La proposition principale même, qui fait l'objet de toute cette section, à savoir que des lois universelles de la nature peuvent être connues a priori, conduit déjà d'elle-même à la proposition que la législation suprême de la nature doit se trouver en nous, c'est-à-dire dans notre entendement, et que nous n'en devons pas chercher les lois universelles en partant de la nature par le moyen de l'expérience, mais que nous devons au contraire chercher la nature de leur légitimité universelle en partant uniquement des conditions de la possibilité de l'expérience qui sont dans notre sensibilité et notre entendement. Comment, en effet, serait-il possible autrement de connaître a priori ces lois, puisqu'elles ne sont pas des règles de la connaissance analytique, mais de véritables extensions synthétiques de cette espèce de connaissance? Un tel et même nécessaire accord des principes de l'expérience possible avec les lois de la possibilité de la nature ne peut avoir lieu que par deux sortes de raisons. Ou ces lois sont tirées de la nature par le moyen de l'expérience, ou, à l'inverse, la nature est dérivée des lois de la possibilité de l'expérience en général et est identique avec la pure légitimité universelle de cette dernière. La première de ces alternatives implique contradiction, car les lois physiques universelles peuvent et doivent être connues, a priori, c'est-à-dire indépendamment de toute expérience, et posées comme fondement de tout usage empirique de l'entendement. Note. Crucius seul a connu un moyen terme, à savoir qu'un esprit qui ne peut ni tromper ni se tromper nous a inculqué originairement ses lois naturelles. Mais cependant, comme des principes trompeurs interviennent souvent, ainsi que le système de cet homme célèbre en fournit d'assez nombreux exemples, on voit, au défaut de critères certains et propres, à faire distinguer l'origine authentique de la fausse, que l'usage d'un tel principe est très douteux, puisqu'on ne peut jamais savoir ce que l'esprit de vérité ou le père du mensonge peut nous avoir inculqué. Fin de la note, reprise du texte. Mais nous devons distinguer les lois empiriques de la nature qui supposent toujours des perceptions particulières, des lois pures ou universelles de la nature qui, sans se fonder sur des perceptions particulières, contiennent simplement les conditions de leur liaison nécessaire dans une expérience. Par rapport à ces dernières, la nature et l'expérience possible sont tout à fait la même chose. Et comme en fait d'expérience, la légitimité repose sur la liaison nécessaire des phénomènes en une expérience, sans laquelle nous ne pouvons connaître absolument aucun objet du monde sensible, par conséquent, sur les lois primitives de l'entendement, il paraîtra tout d'abord étrange, quoique rien ne soit plus certain, que je dise de ces dernières que l'entendement ne tire pas ses lois a priori de la nature, mais qu'il les lui impose. Chapitre 38. Nous expliquerons cette proposition qui semble hasardée par un exemple destiné à montrer que des lois que nous découvrons dans des objets de l'intuition sensible, lors surtout qu'elles sont reconnues comme nécessaires, sont déjà tenues par nous comme posées par l'entendement, quoique d'ailleurs semblables, en tout point, à des lois physiques que nous assignons à l'expérience. Si l'on considère les propriétés du cercle, au moyen desquelles cette figure réunit tant de déterminations arbitraires de l'espace en elle, et par le fait, en une règle universelle, on ne peut se dispenser d'attribuer à cette chose géométrique une nature. Ainsi, par exemple, deux lignes qui se coupent entre elles et qui coupent en même temps le cercle, quelle que soit leur direction, sont cependant toujours si régulières que le rectangle qui résulte des parties de chacune d'elles est égal au rectangle de l'autre. Or, je le demande, cette loi est-elle dans le cercle ou dans l'entendement? C'est-à-dire, cette figure contient-elle indépendamment de l'entendement le principe de cette loi en soi, ou l'entendement, lorsqu'il a construit cette figure même d'après ses notions, l'égalité des diamètres, donne-t-il en même temps la loi des cordes qui se coupent entre elles suivant une proportion géométrique? On verra bientôt, si l'on recherche les preuves de cette loi, qu'elle ne peut être dérivée que de la condition que l'entendement donne pour base à la construction de cette figure, à savoir l'égalité des diamètres. Si nous étendons cette notion, afin de suivre plus loin l'unité des propriétés diverses des figures géométriques sous des lois communes, et que nous considérions le cercle comme une section conique, qui est par conséquent soumise aux mêmes conditions de construction que les autres sections coniques, nous trouvons que toutes les cordes qui se coupent intérieurement à cette construction, l'ellipse, la parabole et l'hyperbole, le font toujours de telle sorte que les rectangles résultant de leur partie ne sont pas toujours égaux entre eux, il est vrai, mais sont cependant toujours entre eux en rapports égaux. Si nous allons plus loin encore, c'est-à-dire jusqu'aux théories fondamentales de l'astronomie physique, on découvre une loi physique qui s'étend à toute la nature matérielle, la loi de l'attraction mutuelle, qui a pour règle de croître en raison inverse du carré des distances à partir de chaque point attractif, comme de décroître en raison des surfaces sphériques auxquelles s'étend cette force, ce qui semble être comme une nécessité de la nature des choses mêmes, et qu'on est par cette raison dans l'usage de présenter comme susceptible d'être connu a priori. Si simple donc que soient les sources de cette loi, puisqu'elles tiennent seulement au rapport des surfaces sphériques de diamètres différents, la conséquence en est cependant si importante, par rapport à la diversité de leur harmonie et de leur régularité, que non seulement tous les orbites possibles des corps célestes peuvent être ramenés à des sections coniques, mais qu'il en résulte encore un tel rapport entre eux qu'aucune autre loi de l'attraction que celle du rapport inverse du carré des distances n'est applicable par la pensée au système du monde. Il y a donc ici une nature qui repose sur des lois que l'entendement connaît a priori, et même par des principes universels de la détermination de l'espace. Or, je le demande, ces lois physiques sont-elles dans l'espace? Et l'entendement les apprend-il lorsqu'il tâche simplement de découvrir le sens fécond qu'elles recèlent? Ou sont-elles dans l'entendement et dans la manière dont il détermine l'espace suivant les conditions de l'unité synthétique à laquelle aboutissent ces notions? L'espace est quelque chose de si uniforme et de si indéterminé par rapport à toutes les propriétés particulières que l'on n'y cherchera certainement aucun trésor de loi physique. Au contraire, ce qui détermine l'espace en forme circulaire, en figure conique et sphérique, est l'entendement, en tant qu'il contient le principe de l'unité de leur construction. La simple forme universelle de l'intuition, qui s'appelle espace, est donc bien le substratum de toutes les intuitions déterminables par rapport aux objets particuliers. Et l'espace contient assurément la condition de la possibilité de la diversité de ces derniers. Mais l'unité des objets n'est cependant déterminée que par l'entendement, et même suivant des conditions qui sont dans sa nature propre. Et ainsi, l'entendement est l'origine de l'ordre universel de la nature, puisqu'il embrasse, sous ses lois, tous les phénomènes et par là réalise a priori une expérience quant à la forme qui doit servir à soumettre à des lois nécessaires tout ce qui ne doit être connu que par expérience. En effet, il ne s'agit pas ici de la nature des choses en soi, qui est aussi indépendante des conditions de notre sensibilité que de celle de l'entendement, mais bien de la nature comme objet de l'expérience possible. Et alors, l'entendement, en la rendant possible, fait en même temps que le monde sensible n'est point un objet de l'expérience ou une nature. Chapitre 39. Appendice à la physique pure. Du système des catégories. Rien de plus désirable pour un philosophe que de pouvoir dériver a priori d'une source unique la diversité des notions ou des principes qui ne s'étaient d'abord offerts à lui par l'usage qu'il en avait fait in concreto, qu'à l'état de désordre, et de pouvoir ainsi tout réunir en une seule connaissance. Auparavant, il croyait seulement que ce qui lui restait, après une certaine abstraction, et qui par suite d'une comparaison semblait constituer une espèce de connaissance, était pleinement recueilli. Mais ce n'était qu'un agrégat. Et il sait aujourd'hui que cette espèce de connaissance ne peut se composer que de ces éléments, qu'elle n'en peut avoir ni plus ni moins. Il voit la nécessité de sa division, ce qui est un fait de conception, et possède enfin un système. Pour tirer de la connaissance commune les notions qui n'ont aucune expérience particulière pour fondement, et qui néanmoins se présentent dans toute connaissance expérimentale, dont elle constitue comme la forme de la liaison, il ne lui a pas fallu plus de réflexion ou de connaissance que pour tirer d'une langue des règles de l'usage réel des mots, et pour composer ainsi des éléments d'une grammaire. En réalité, les deux opérations se ressemblent beaucoup, sans cependant pouvoir dire pourquoi chaque langue possède telle propriété formelle et pas une autre, et moins encore, pourquoi, en général, tel nombre de déterminations formelles de cette espèce, ni plus ni moins, peuvent se rencontrer. Aristote avait recueilli 10 notions fondamentales de cette espèce, sous le nom de catégories. Il se vit bientôt dans la nécessité d'ajouter à ces catégories qu'il appelait aussi prédicaments, 5 autres notions qu'il appela post-prédicaments, qui cependant se trouvaient déjà en partie dans les premières. Mais cette rhapsodie devait plutôt servir aux investigateurs futurs comme indication que comme idée régulièrement obtenue et recevoir à ce titre leur approbation. Aussi est-il arrivé qu'une philosophie plus avancée n'y a vu aucune espèce d'utilité. En recherchant les éléments purs, qui ne contiennent rien d'empirique, de la connaissance humaine, je ne me suis décidé qu'après une longue réflexion à distinguer avec certitude et à séparer les notions élémentaires de la sensibilité, espace et temps, des notions de l'entendement. Les 7e, 8e et 9e catégories d'Aristote ont ainsi été exclues de la liste. Les autres ne pouvaient me servir, parce qu'il n'y avait aucun principe qui pût m'aider à mesurer avec exactitude l'entendement et à déterminer complètement et avec précision toutes les fonctions d'où sortent ces notions pures. Pour trouver ce principe, je me demandais quelle est l'opération intellectuelle qui renferme toutes les autres et ne se distingue que par différentes modifications ou moments. Celle qui consiste à ramener la diversité de la représentation à l'unité de la pensée en général, et je trouvais que cette opération intellectuelle est le jugement. J'avais donc devant moi, par le fait, un travail estimable des logiciens, qui, sans être exempt de défaut, me mettait en état de présenter une table complète des fonctions intellectuelles pures, mais indéterminées par rapport à tout objet. Je rapportais, enfin, ces fonctions du jugement à des objets en général, ou plutôt à la condition propre à donner au jugement une valeur objective, et de là sortir des notions intellectuelles pures, au sujet desquelles je ne pouvais douter qu'elles ne fussent celles-là même, celles-là seules, et toutes celles-là, sans plus ni moins, qui constituent toute notre connaissance des choses par pur entendement. Ainsi que j'en avais le droit, je les appelais de leur ancien nom, catégorie, me proposant par là d'en déduire complètement toutes les notions qui en découlent, soit par leur liaison, ou avec la forme pure du phénomène, espace et temps, ou avec leur matière, en tant qu'elle n'est pas encore déterminée empiriquement, objet de la sensation générale, de leur donner le nom de prédicable et de constituer ainsi un système de philosophie transcendantale en vue duquel je n'avais à m'occuper que de la critique de la raison pure elle-même. Mais le côté essentiel par lequel ce système des catégories se distingue de toute l'ancienne rhapsodie exécutée sans principe, et qui lui mérite seul un rang dans la philosophie, consiste en ce que, par elle, la véritable signification des notions intellectuelles pures et la condition de leur usage peuvent être déterminées avec précision. Car on voyait bien qu'elles ne sont par elles-mêmes que des fonctions logiques, mais qui, comme telles, ne donnent pas la moindre notion d'un objet en soi, qu'elles ont besoin d'une intuition sensible, et qu'à cette condition seule, elles peuvent servir à donner des jugements empiriques, qui autrement sont indéterminés et indifférents par rapport à toutes les fonctions du jugement, leur donner par là une valeur universelle, et par eux rendre possible en général des jugements d'expérience. Ni le premier auteur des catégories, ni personne après lui, ne se fit de la nature des catégories une notion qui les restreignit en même temps à l'usage purement expérimental. Et cependant, sans cette manière de les concevoir, qui dépend tout à fait de leur dérivation ou déduction, elles sont entièrement inutiles. Ils ne forment qu'une pitoyable nomenclature sans explication ni règle de leur usage. Si cette idée fut venue dans la pensée des anciens, sans doute que toute l'étendue de la connaissance rationnelle pure qui, sous le nom de métaphysique, a gâté tant de bons esprits pendant un si grand nombre de siècles, nous serait parvenue sous une toute autre forme et aurait éclairé l'entendement humain au lieu de l'épuiser, comme c'est arrivé, dans des questions obscures et vaines, et de la rendre impropre à la véritable science. Ce système des catégories constitue donc un nouvel ensemble de tout le traité de chaque objet, de la raison pure même, et fournit une indication certaine ou un fil conducteur pour la manière dont tout traité métaphysique, si l'on veut l'exécuter pleinement, doit être conduit et par quelle voie. Car il épuise tous les moments de l'entendement par lesquels doit passer toute autre notion. Ainsi s'est formée la table des principes dont l'intégralité ne peut être certaine qu'au moyen du système des catégories. Dans la division même des notions, qui doivent dépasser l'usage physiologique de l'entendement, Critique, tome 2, page 44 et page 75. C'est toujours le même fil conducteur qui, devant toujours passer par les mêmes points fixes, déterminés a priori, dans l'entendement humain, forme également un cercle achevé, qui ne permet pas de douter que l'objet d'un entendement pur ou d'une notion rationnelle, en tant qu'il doit être considéré philosophiquement et suivant des principes a priori, peut ainsi être pleinement connu. Je n'ai même pas pu ne pas faire usage de ce guide en ce qui regarde une des divisions ontologiques les plus abstraites, celle de la distinction variée des notions de quelque chose et de rien, et ne pas dresser en conséquence une table régulière et nécessaire, Critique, page 300. Note. On peut faire sur la table en question des catégories toutes sortes d'observations, telles que les suivantes. Petit 1, que la troisième résulte de la première et de la deuxième réunie en une notion. Petit 2, que dans celle de quantité et de qualité, il y a simplement progrès de l'unité à la totalité, ou d'un quelque chose à un rien, ce qui exige que les catégories de la qualité soient disposées ainsi, réalité, limitation, entière négation. Sans corrélation ou opposition, quand au contraire, celle de la relation et de la modalité implique ces corrélations. Petit 3, que de même qu'en logique, les jugements catégoriques sont la base de tous les autres, la catégorie de substance est la base de toutes les notions de choses réelles. Petit 4, que, tout comme la modalité n'est pas un prédicat dans le jugement, les notions modales n'ajoutent non plus aucune détermination aux choses, etc. Toutes ces considérations ont leur grande utilité. Si, outre cela, on compte tous les prédicables qu'on peut assez pleinement tirer de quelque bonne ontologie de Baumgarten et qu'on les classe sous les catégories avec l'intention d'y joindre une analyse aussi complète que possible de toutes ces notions, on obtiendra une partie purement analytique de la métaphysique qui ne contient encore aucune proposition synthétique et peut précéder la partie synthétique, et qui par sa déterminabilité et son intégralité serait utile en même temps que par son côté systématique. Elle présenterait de plus une certaine beauté. Fin de la note, reprise du texte. Ce même système, comme tout vrai système fondé sur un principe universel, est encore susceptible d'une autre application qui n'est pas suffisamment appréciée, en ce qui élimine toutes les notions étrangères qui autrement pourraient s'introduire parmi ces notions intellectuelles pures et assigne à chaque connaissance sa place. Les notions que j'ai de même réduites sous le nom de notions de réflexion ou, suivant la direction des catégories, se mêlent en ontologie furtivement et mal à propos aux notions intellectuelles pures quoique ces dernières soient des notions de la liaison, et par là de l'objet même, tandis que celles-là ne sont que des notions de la pure comparaison de concepts déjà donnés, et qu'elles soient ainsi d'une nature et d'un usage différents. Ma division régulière, critique page 300, prévient ce mélange. L'utilité de cette table particulière des catégories se montre encore bien plus clairement si l'on distingue, comme on le fera bientôt, la table des notions rationnelles transcendantales, qui sont toutes différentes des notions intellectuelles quant à la nature et à l'origine, et doivent nécessairement avoir une autre forme, des tables précédentes. Distinction qui, malgré sa nécessité, n'a cependant jamais été faite dans un système quelconque de métaphysique. Ces idées rationnelles circulent sans distinction avec les notions intellectuelles, comme feraient des sœurs d'une même famille. Cette confusion ne pouvait être évitée sans un système particulier des catégories.